Et on le retrouve, Olivier Beauregard, pour faire le point sur ce qui s'est passé dans le domaine sportif cette semaine. Olivier, bonjour.
Salut.
Ça a commencé cette semaine-là, lundi, avec des détails sur des entrevues qu'elle a diffusées lundi soir, tant à RDS avec Chantal Maccabée qu'à TVA Sport avec Renaud Lavoie, entrevue avec Jonathan Drouin, qui faisait son retour au hockey. On en avait parlé, bien sûr, au mois d'avril, quand il avait quitté. Il y avait des rumeurs qui circulaient, c'était pas clair. Mais ce qu'on savait, c'est qu'il avait besoin de temps pour lui. Là, on a eu un peu plus de détails sur ce qui s'est passé puis ce qu'il a vécu dans les 6 derniers mois.
Oui, absolument. Écoutez, il y a eu tellement de spéculations l'an dernier quand Jonathan Drouin a finalement quitté. Rappelez-vous ce fameux match-là contre les Flames de Calgary où, après l'échauffement, on voit Jonathan Drouin aller s'entretenir avec le médecin de l'équipe. Puis on savait là, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il lui a annoncé finalement qu'il allait quitter la rencontre, qu'il ne sentait pas bien. Et il n'est jamais revenu par la suite, même que le Canadien a fait un point de presse pour mentionner que Drouin allait se tenir à l'écart de l'organisation et de l'équipe pour une période de temps indéterminée. Bon, là, il y a eu plein de questionnements. Il y en a qui ont pensé que Jonathan Drouin était pris sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Évidemment, après des recherches et aussi parce que le Canadien l'a confirmé, bon, on a appris que Jonathan Drouin n'a jamais été sur la liste des joueurs qui avaient demandé l'aide là justement pour les consommations, etc., là, la dépendance à l'alcool ou bien aux drogues là, de la Ligue. Donc, on savait que ça n'avait pas rapport avec ça. Et là, cette entrevue-là nous a dévoilé un peu ce que s'ébruitait au courant des derniers mois, c'est que Jonathan Drouin a souffert, comme plusieurs d'entre nous souffrent dans la vie, d'anxiété, mais d'anxiété tellement importante que ça a fait en sorte qu'il y a un moment donné, il n'était plus capable de se concentrer sur son travail, sur jouer au hockey. Puis écoute, Sébastien, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, l'anxiété, là, pour ceux qui en ont jamais souffert, c'est pas compliqué, hein? C'est avoir peur d'avoir peur, finalement. C'est vraiment ça. C'est une crainte qui est tout le temps là, une crainte qui revient, que tu sais jamais à quel moment qu'elle peut te frapper. Puis c'est tellement fort que tu as l'impression de ne plus être en contrôle de ton corps, de tes pensées. Et c'est vraiment difficile à vivre. C'est une forme de dépression, si on veut. Puis je suis pas psychologue, là. Mais je peux vous dire que moi, j'en ai souffert, là, puis j'en ai souffert longtemps, puis j'ai consulté pour ça parce que j'avais besoin d'aide. Puis je peux savoir à quel point ça peut avoir un effet dévastateur sur une personne. Et Jonathan Drouin, ça l'explique pas mal d'affaires. Tu sais, quand t'occupes un rôle comme lui à Montréal, de joueur d'attaquant vedette, qui n'a pas produit au rythme que les gens voulaient qu'il produise. T'es toujours le gars qui est ciblé sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. T'es toujours le gars qui est ciblé pour se faire ramasser, pour se faire attaquer de toutes parts. Évidemment qu'à un moment donné, tu sais, Sébastien, c'est pas compliqué, là, mais la pression est tellement grande que ça devient trop difficile à gérer. Puis moindrement que tu souffres d'anxiété, moindrement que tu souffres de problèmes de santé mentale, ben ça peut être cette situation-là. Alors, imaginez-vous comment ce gars-là a dû se sentir pour décider à un moment donné de quitter. Puis moi, dans l'entrevue, ce qui m'a marqué, c'est quand il a dit, écoutez, ça faisait des mois que j'avais discuté avec mon sommeil, puis là, il y a des fois, j'étais sur des périodes de 3-4 jours sans dormir, puis il fallait que je joue un match. Là.
C'est hallucinant. Je me souviens plus quel analyste a dit ça, mais il a dit, s'il réussissait à faire ce qu'il faisait avec des journées, comme des nuits sans sommeil, plusieurs en ligne, imaginez ce qu'il peut réaliser s'il réussit à bien dormir, puis à faire le plein d'énergie comme il faut, puis à bien gérer ces troubles-là, tout peut lui appartenir. Là.
Puis c'est tellement important de ne pas banaliser ça, puis c'est tellement important de comprendre l'enjeu derrière ça, parce que c'est beaucoup plus que le sport, puis c'est beaucoup plus que l'argent qu'il gagne. C'est une question de santé, puis ce gars-là a décidé de retrouver le bonheur, puis d'être heureux avant n'importe quoi, avant ses millions, avant son hockey. Puis moi, là, je suis vraiment content, ça pave la voie, parce que c'est pas le premier joueur qui souffre de symptômes comme ça, c'est-à-dire de crise d'anxiété, de crise d'angoisse que c'est prononcé. Puis lui, il a décidé publiquement de dire, écoutez, j'ai souffert de ça, je vais chercher de l'aide, je vais continuer à travailler là-dessus, mais maintenant, je me sens d'attaque pour revenir. Chapeau à lui, parce que comme j'ai dit, moi, j'en ai souffert, je connais plein de gens alentour de moi qui en ont souffert, je pense que c'est la maladie du 21e siècle, mais tant aussi longtemps que tu décides de t'aider, de te donner toutes les chances, selon moi, tu prends les bonnes décisions, puis tu donnes les décisions pour t'en sortir. Puis Jonathan Drouin, c'est l'exemple parfait. Puis cette année, là, je vais terminer là-dessus, mais de grâce, là, on peut-tu ne pas le juger après chaque performance? On peut-tu ne pas crier sur les réseaux sociaux que c'est un pas bon, que c'est un ci, que c'est un ça, quand il n'aura pas marqué un but au courant des 5 derniers matchs? C'est un humain, là. C'est un humain qui a eu de la difficulté avec lui-même, de la difficulté dans son mental. Là, il essaie de se réparer de ça, puis il veut juste se concentrer et avoir du plaisir à jouer au hockey. donnons-lui, puis chapeau à lui d'avoir décidé d'en parler publiquement.
Et si vous ne l'avez pas écouté, ben, une de ces entrevues-là, je vous invite à le faire. De mon côté, j'ai préféré celle de Chantal Maccabé, dans le ton, dans la façon que c'était fait, mais donc il y a ça disponible sur RDS ou encore sur TVA Sports, celle avec Renaud Lavoie. Sinon, ben, on reste dans le domaine du hockey aujourd'hui. Brady Tkachuk ne s'est pas présenté aucun entraînement, mais il y a une bonne raison pourquoi il ne s'est pas présenté. Il n'y a pas de contrat.
Ben, pas de contrat, mais quel fiasco! Je veux dire, ce gars-là est pressenti pour être le prochain capitaine des Sénateurs d'Ottawa. C'est l'identité même que les Sénateurs veulent avoir au courant des prochaines années. Tu sais, ils se l'ont pas caché, là, eux, ils passaient par une période de reconstruction. Leur équipe a impressionné l'an dernier pendant les Bulls, pendant les matchs intra-division canadienne. Et on se disait même, mais les Sénateurs sont en train de prendre une certaine maturité, puis ils peuvent être dangereux au courant des prochaines années. Puis le joueur qui est clé là-dedans, le joueur qui t'a donné une certaine identité, puis qui t'amène un leadership presque exemplaire, c'est Brady Tkachuk. Puis t'es pas capable de t'entendre avec lui avant le début du camp d'entraînement. Sébastien, on le sait que c'est des contrats des fois qui, oui, doivent être coûteux pour une organisation, mais je pense que Brady Tkachuk en vaut la peine. C'est pas compliqué, là. Ce gars-là a tout donné à cette organisation-là. Tu peux pas le perdre. C'est pratiquement ton meilleur joueur. C'est très certainement ton futur capitaine. Je comprends pas qu'on n'ait pas réglé ça. C'est pas comme si les Sénateurs avaient pas de place sous la masse salariale, là. T'es capable de lui donner un 8 millions, là. Puis moi, là, qu'on me lance les contrats transitoires, parce que ce qu'on a fait dans la Ligue en accordant des contrats à des jeunes, là, rapidement, puis des contrats qui n'ont pas de bon sens, je te donne l'exemple de Jesperi Kotkaniemi aux Hurricanes à Caroline, ben, ce qu'on dit, c'est que les contrats de transition, ça vaut plus rien dans la Ligue nationale. Si toi, t'es pas prêt à payer, ben il y a une autre équipe qui va être prête à le faire. Puis Brady Tkachuk, lui, va être payé à sa juste valeur, avec raison. Puis les Sénateurs d'Ottawa sont en train de gâcher probablement une relation avec ce futur capitaine-là. En tout cas, moi, si j'entends là, la semaine prochaine qu'on a signé un 3 ans à rabais, Brady Tkachuk, je peux vous garantir une chose, Brady Tkachuk ne restera pas à Ottawa par la suite. Je pense pas qu'il va signer une prolongation avec eux parce que c'est un manque de respect. Pierre Dorion s'est fait avoir de commentaires hier en point de presse quand le camp a commencé. Il a décidé de pas commenter cette situation-là. Puis je peux pas concevoir qu'il n'y a pas plus de respect envers ces partisans-là. Moi, je pense que les partisans ont le droit de savoir ce qui se passe. Je pense que les médias ont le droit de savoir ce qui se passe dans ce cas-là. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec lui? Est-ce qu'on est prêt? On nous répond n'importe quoi. On continue à nous dire « ça va très bien, les relations avec les Sénateurs d'Ottawa et Brady Tkachuk, ça va, tout va bien ». C'est pas vrai, parce que si tout allait bien, là, ben ça serait signé. Puis on verrait un Brady Tkachuk à Ottawa en ce moment. Pas à Michigan en train de patiner puis de s'entraîner au cas où là, il réussit à s'entendre avec les Sénateurs. En tout cas, je trouve ça décevant. C'est à l'image de l'organisation au cours des dernières années. Dès qu'on parle de contrat, c'est toujours compliqué. C'est jamais simple. On a fait la même chose avec plusieurs joueurs. Le seul qui a eu la chance de ne pas avoir ça, c'est Thomas Chabot. Mais honnêtement, là, si on veut avoir une équipe compétitive au courant des prochaines années, ça nous prend un Brady Tkachuk dans notre alignement. Faut absolument faire un commitment dans son cas puis dire ce gars-là, c'est notre leader. Ce gars-là, c'est le gars avec qui on va aller à la Coupe cette année. Puis en ce moment, ce qu'on est en train de dire, c'est t'es bon, mais t'es pas assez bon, tu vaux pas assez pour nous autres. On est capable de jouer un peu la carte de l'intimidation, puis viens pas au camp, c'est pas grave, on n'a pas besoin de toi. Ça, là, c'est la pire affaire à faire à un joueur professionnel, surtout de la trempe de Brady Tkachuk.
Et ça donnera pas le goût à d'autres joueurs de joindre l'équipe éventuellement. Ouais. C'est une tendance qui s'allonge encore dans le temps, pendant un bout de temps. Les autres joueurs vont dire non, je vais pas me faire échanger là, je vais aller ailleurs. Là.
Ben écoute, de toute façon, c'est déjà difficile d'attirer des joueurs à Ottawa. Là, t'es en train de donner l'exemple qu'ils ont raison de penser ça, tu sais. Non, c'est terrible. Moi, je pense que, puis peu importe, là, que ça soit Pierre Dorion, que ça soit Eugene Melnyk qui veut pas payer, peu importe, là. C'est ridicule, c'en est décevant. Puis moi, premièrement, là, si j'étais dans l'organisation des Sénateurs, au niveau des têtes dirigeantes, là, je serais gêné. Je serais gêné que ce contrat-là soit pas déjà réglé. Je serais gêné que ce dossier-là, au début du camp d'entraînement, soit encore une source de distraction pour mon équipe. Parce que je te le dis, Sébastien, si le dossier Brady Tkachuk avait été réglé, là, on commençait le camp d'entraînement chez les Sénateurs avec que des bonnes nouvelles. Quelle équipe compétitive, quelle sorte de Sénateurs on va voir cette année. Ils ont tellement bien fini la saison l'an dernier. Ils sont intéressants, les Sénateurs sont dynamiques. Là, au lieu de ça, on fait ombrage à ça, puis on fait juste parler d'un contrat qui n'a pas été signé parce qu'on a décidé de ne pas payer notre meilleur joueur.
Sinon, toujours dans le monde du hockey, chez les Sabres, on a décidé qu'on changeait de capitaine.
Ben, une autre organisation qui n'a pas de bon sens. Une autre organisation qui ça fonctionne pas. Écoute, Jack Eichel, c'est un problème depuis plusieurs années. On le sait, son leadership a été remis en question tellement souvent. Tu sais, on se dit, ce gars-là, oui, il a un talent naturel, mais honnêtement, dans le vestiaire, c'est peut-être un problème. On l'a nommé en 2018 capitaine des Sabres de Buffalo. Lui, il a souvent fait disons, des discours en disant, ben, savez-vous quoi, moi, je suis prêt à sacrer mon cap ici. Je suis pas certain qu'on ait une équipe qui va compétitionner éventuellement. Avec peut-être raison, c'est vrai que c'est difficile pour les Sables de se monter une équipe, qui peut participer aux séries sur une base régulière puis être dangereux sur les éliminatoires. Mais Jack Eichel est un joueur dominant. Puis les leaders, Sébastien, c'est pas compliqué, t'es voix, hein? Les mecs, Connor McDavid de ce monde, mm-hmm. ça cherche pas à se sauver quand ça va mal. Ça cherche à trouver des solutions. Dans le cas de Jack Eichel, ben, on le sait, c'est difficile. Là, il y a eu une blessure. Ça a été difficile du côté des Sables. On n'a pas voulu soigner sa blessure. On a dit, on va attendre. Lui a dit, si vous ne soignez pas, je vais aller ailleurs. Et là, la chicane est partie. Lui veut être échangé. L'organisation des Sables se dit, on n'est pas pressé à t'échanger. Bon, tant qu'on n'aura pas l'offre qu'on veut, on t'échangera pas. Puis toi, tu resteras ces lignes de côté. C'est rendu un fiasco, cette histoire-là aussi. Et le pire là-dedans, c'est que Kevin Adams annonce au début du camp d'entraînement, mais savez-vous quoi, Jack Eichel n'est plus notre capitaine. On lui a retiré le sein. Mais il fait encore partie, puis c'est encore une partie intégrante de l'organisation des Sables de Buffalo. C'est le joueur le mieux payé.
Oui. C'est, ouais, ça envoie pas un beau message. La dynamique de groupe doit pas être super.
Ben imagine, là, tu fais partie du groupe de, puis t'es un jeune joueur qui vient d'arriver dans l'entourage de l'équipe. Là. Tu fais partie du groupe de joueurs de l'organisation. C'est quoi le message que ça envoie là? Mm. C'est que ton groupe de leaders là, ben c'est divisé, puis ton vestiaire est divisé, puis que là on sait plus sur qui s'appuyer, on sait plus sur quel joueur s'identifier. Écoute, c'est terrible. Il va falloir qu'on règle ça, ce problème-là. Kevin Adams répétait encore hier. On n'est pas pressé de l'échanger. On n'est pas pressé, nous autres, de faire une échange trop rapide parce que, dans le fond, on va attendre la proposition idéale pour nous. Mais pendant ce temps-là, l'équipe a de l'air ridicule. La situation est ridicule. Puis on ne sait pas non plus ce que ça va donner comme équipe sur la glace. Ça risque d'être une équipe ridicule aussi. Fait que, tu sais, c'est un problème. Est-ce que moi, si j'étais Kevin Adams, j'essaierais de régler ça le plus rapidement possible? Sans vente à rabais, Sébastien. Là. Il doit y avoir des propositions qui ont de l'allure en quelque part dans le circuit.
Sûrement.
Débarrasse-toi de ça. Passe en étape de reconstruction, puis ça presse. Puis après ça, ben, passe à autre chose, puis c'est terminé le dossier de Jack Eichel. Là. Mais écoute, moi, je pense que plus tu traînes ça, plus t'entaches l'histoire de ton organisation, plus t'entaches la crédibilité de ton organisation. Parlez-en aux sénateurs d'Ottawa.
Oui, ouais, c'est ça. On espère que la semaine prochaine, on aura un plus beau portrait de certaines équipes, du moins de celles dont on va parler.
C'est un peu fâché, hein?
Ben non, mais c'est correct. Mais ça a bien commencé avec Jonathan Drouin qui effectue son retour, puis ça a l'air de bien se passer de son côté. Olivier Beauregard, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.
Hey, merci, bye-bye.